pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Les Régors, chaque semaine sur les Coligaris, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et oui, nous sommes encore en direct. Oui, tout à fait, et comme on a plus l'habitude, on galère, on est néophyte, du coup on sait plus comment ça se passe, on reprend pas la parole après le générique. Alors bonsoir, hein, bonsoir déjà et à toutes et à tous. Aujourd'hui, on souhaitait prendre un peu de temps pour essayer de faire un petit bilan, en tous les cas une petite analyse de ce qui est en train de passer au Proche ou au Moyen-Orient. En Palestine, en Israël, en Jordanie, selon évidemment les termes qu'on emploie. Notez que Proche et Moyen-Orient sont des dénominations directement issues du colonialisme, hein, et de la vision occidentale et européano-centrée qu'on peut avoir ici. On voulait avoir ce temps parce que pour ceux qui ont la malchance d'avoir la télévision chez eux, aujourd'hui il fallait avoir le cœur bien accroché pour pas rendre son petit déjeuner, puisque à partir de 8h du mat, on a eu sur les antennes de toutes les chaînes d'infos en continu, qu'elles soient publiques ou privées, la diffusion en mondovision de la libération des otages israéliens retenus par les différentes factions palestiniennes lors de l'attaque du 7 octobre, et également le discours intégral de Trump à la Knesset et la réception de ce dernier en Israël. Et c'est assez hallucinant, d'une part, que on accorde autant de temps d'antenne à ce type d'événement. Non pas qu'il n'en vaille pas la peine, mais on pourrait le mettre en regard d'autres événements et d'autres moments dans d'autres parties du monde, évidemment. Et surtout, la faiblesse de l'analyse de ce qui est en train de se passer et de ce que signifie ce moment, cette mise en scène, ce happening, cette réception du dirigeant de la plus grande puissance mondiale qui, à l'instar de ses prédécesseurs, nous propose, ou nous impose plutôt, mais nous décrit le nouvel ordre mondial qu'il se propose de nous imposer, pour le coup. Évidemment, tout cela emprunt d'une mégalomanie sans commune mesure avec le personnage. Alors, nous, c'est pas sans nous rappeler au cours de ces 20 ou 30 dernières années des moments similaires, analogues, qu'on a pu avoir. Alors, pour ceux qui se souviennent, pour faire du rétro, mais dans le moins loin, on se rappelle de la déclaration de George Bush sur son porte-avions à l'issue de la destruction de l'État irakien et de la chute de Saddam Hussein. antenne, hein, de mission accomplie sur le porte-avions qui nous promettait la paix et le développement pour toute cette région du globe. On se souvient également en 2001 de la déclaration du même George Bush à l'issue de la déclaration de guerre contre le terrorisme et contre l'empire du mal, de la promesse de ce nouvel ordre mondial. Si on remonte encore un peu plus loin, on avait le même type de déclaration et de mise en scène après la chute de Milosevic et la création de l'État croupion du Kosovo, et encore auparavant, dans les années 90, à l'issue de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique. On a eu à chaque fois ces proclamations à la fois d'un bilan autosatisfait de la part des grandes puissances de ce monde, et bien évidemment une mise en scène à chaque fois où on avait un Occident triomphant, ou qu'il se voulait comme tel, puisque en général la suite des événements démentissait assez vertement les proclamations qui étaient faites. Alors, pour ce faire, on va faire des appels à des gens beaucoup plus intelligents que nous et dont c'est le métier de réfléchir à ces questions-là. Et on a choisi d'écouter pendant une petite demi-heure un des analystes qui a que vous n'entendrez pas sur vos télés, parce que malheureusement ce qu'il dit n'est pas véritablement dans la droite ligne de ce qui est dit en général sur les antennes, et puis en plus il sait de quoi il parle, donc ça fait deux choses pour lesquelles vous risquez pas de l'entendre sur les grandes ondes, et donc grâce à l'Egrégore vous pourrez l'avoir. Alors, il s'agit d'Hilbert Ashkar. Hein. Hilbert Ashkar, c'est un Libanais qui enseigne aujourd'hui à Londres et qui écrit dans un hebdomadaire arabe, qui a une position et un parcours de militant communiste au Parti communiste libanais, puis ensuite il est sorti et il a un parcours à l'intérieur de la gauche altermondialiste, mais aujourd'hui il est enseignant à Londres et il a un regard sans concession sur les différentes parties, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui sait évidemment de quoi il parle. C'est un arabisant, donc il parle l'arabe, et qui en plus connaît intimement une partie de la région, puisque comme je l'ai dit auparavant, il vient du Liban, il a passé la plus grande partie de sa vie au Liban. On va passer une demi-heure là-dessus, et puis ensuite on vous donnera quelques détails sur ce fameux plan Trump en tous les cas, et puis quelques éléments qui évidemment, vous pouvez vous en douter, nous interpelle, parce que c'est sûr que ça va pas marcher. Hein. Il y avait déjà eu un plan Trump il y a 10 ans, lors de la précédente mandature de Trump, qui devait donner la paix pour 100 ans à cette région. Aujourd'hui, il parle de 1000 ans. Mais sur certains acteurs, évidemment, parce que ce plan, on ne le connaît pas. Hein, il est assez obscur, il y aurait une vingtaine de conditions, mais bon, tout ça est vraiment très 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 très, très flou encore. On n'a que quelques éléments, mais on sait déjà par rapport à quelques acteurs qui sont en jeu dans ce plan, ça risque de pas être de la tarte pour les Palestiniens, et que véritablement les problèmes ne seront absolument pas réglés. Camille, est-ce que tu peux essayer d'envoyer cette interview, s'il te plaît?
Avec Gaza, un génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale qui paraît à la dispute, vous livrez une analyse sans détour, professeur de l'université à Londres. Vous analysez la guerre à Gaza comme un moment charnière de l'histoire mondiale, révélateur, ce moment, de la faillite de ce que vous appelez la faillite du libéralisme occidental et du droit international. Sans concession avec le Hamas, non plus qu'avec le régime d'extrême droite d'Israël, ni avec la complicité des États occidentaux dans le génocide à Gaza, vous affirmez que le colonialisme et son potentiel génocidaire est au cœur du libéralisme occidental. Vous qualifiez les attaques du 7 octobre 2023. Alors d'abord, vous les aviez qualifiées de contre-offensive, on va y venir. Mais surtout, 2 ans plus tard, ce que vous nous expliquez dans votre livre, qui est absolument passionnant, vous nous dites que c'est le calcul le plus catastrophique, peut-être, de l'histoire de la lutte anticoloniale. Vous êtes né le 5 novembre 1951 à Beyrouth, quelle belle ville. Et vous êtes donc maintenant à Londres, puisque je vous ai raté quand vous êtes venu à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Le choc des barbaries » en 2002, « Les Arabes et la Shoah » extrêmement remarqué en 2010, « Le peuple veut » en 2013. Est-ce que j'ai raconté n'importe quoi ?
Non, non, mais je suis pas né à Beyrouth, je suis né à Dakar, au Sénégal.
Dans c'est joli aussi.
Diaspora libanaise, mais j'ai grandi à Beyrouth. Je suis rentré à Beyrouth à l'âge de 8 ans.
Alors, nous avons un petit peu de temps, j'espère que vous aussi. Avant d'entrer dans le livre, j'aimerais qu'on parle de deux faits d'actualité qui ne sont pas évidemment dans le livre, c'est pas un reproche, puisqu'ils sont postérieurs à la sortie du livre. La première des choses, c'est ce plan Trump, celui qu'on appelle le plan Trump, qui est en ce moment, on va dire, sur la table, pour employer des termes un peu idiots. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quel est ce plan et qu'est-ce qu'on peut en penser ?
Bon, ce plan est un plan qui, ouvertement, affiche son... le fait qu'il ignore le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, puisqu'il le pose comme une possibilité pour l'avenir. Alors déjà, rien que cette façon de poser le problème montre que, eh bien, le fait qu'on est loin d'un plan de règlement ou de solution de la crise, de ce qui se passe. On attend toujours la réponse du Hamas. Il y a probablement des tractations en cours, des pressions qui sont exercées par le Qatar, entre autres, sur cette organisation, afin d'accepter ce plan. Mais d'un autre côté, comme je crois que c'est Haaretz, le journaliste, qui disait que, en fait, l'acceptation de ce plan pour le Hamas, c'est une reddition, c'est une capitulation, parce que ce plan, eh bien, c'est la mise sous tutelle de Gaza sur un mode colonial, qui rappelle les mandats coloniaux de l'entre-deux-guerres, ou plus récemment l'administration internationale du Kosovo, qui d'ailleurs explique pourquoi Tony Blair, l'ex-premier ministre britannique, est impliqué dans l'affaire, parce qu'il est expert en la matière. Vous avez une administration qui sera présidée par Trump lui-même, par Donald Trump lui-même, avec Blair parmi ses membres. Vous avez l'indication de retrait par étape de l'armée israélienne, mais une dernière étape qui semble tout à fait illusoire, puisque il s'agit pour l'armée israélienne de décider quand il n'y aura plus de menaces terroristes à son encontre, ce qui renvoie à l'affaire au calendrier grec. Et ensuite, c'est un plan bâclé, dans tous les points de vue. C'est 20 points qui, sont très généraux, avec tous les problèmes que j'ai déjà indiqués, mais il n'y a rien sur les véritables détails qui font problème. On rentre pas dans les détails, voilà. Donc, ce plan, je crois, quelque chose qui a été élaboré pour un Trump qui est lui-même sous pression pour mettre un terme à la guerre israélienne contre la bande de Gaza, qui concocte un plan avec des contributions de son gendre Kouchner et de Tony Blair, fait cela dans le contexte d'un accord avec un certain nombre de gouvernements arabes et musulmans,
pour se donner une sorte de légitimité de ce côté-ci au plan, et puis lance l'affaire. Alors, Netanyahou a accepté. Je suis sûr que ce qu'il dit à ses alliés, c'est que, eh bien, comme pour le plan qu'avait déjà annoncé Donald Trump en 2020, hein, lors de son premier mandat, il avait offert ce qu'il avait appelé l'accord du siècle, qui allait tout résoudre. Eh bien, Netanyahou l'avait accepté, sachant pertinemment que l'autre côté ne l'accepterait pas. Et donc, voilà, je crois qu'il mise cette fois-ci encore sur un scénario de ce type, hein, que le Hamas n'accepterait pas, ce qui, lui donnerait un feu vert afin de continuer ce qu'il poursuit actuellement, c'est-à-dire bien l'invasion totale de la bande de Gaza, l'écrasement total de tout ce qui est bâti dans cette enclave, la concentration de ses habitants dans une sorte de vaste camp de concentration sous garde israélienne. Et bon, c'est pour les Gazaouis, c'est un cauchemar. Bon, le fait que les gouvernements britanniques et français se soient empressés d'exprimer leur satisfaction par rapport au plan Trump, eh bien, c'est tout est dit là déjà, parce que comme je l'ai dit dès le départ, c'est un plan qui nie même le droit à l'autodétermination des Palestiniens, qui fait de ce droit une possibilité uniquement une possibilité pour l'avenir, et le fait de soutenir ce plan montre que par État palestinien, ces gouvernements n'entendent pas une véritable autodétermination du peuple palestinien. D'ailleurs, avant même le plan Trump, si vous prenez le gouvernement français, c'est très clair, l'État palestinien en question, dans l'optique du gouvernement français, serait fondé sur le modèle de ce qu'est l'autorité palestinienne aujourd'hui, celle qui est à Ramallah en Cisjordanie. Or, cette autorité palestinienne, bon, je l'ai dit à plusieurs occasions, mais je veux dire, elle a moins de souveraineté que ne l'avait le régime de Vichy par rapport à l'occupation allemande. Hein, il faut être clair, c'est une autorité sans souveraineté aucune, et un État, soi-disant État, et en plus un État croupion sur seulement une partie du territoire palestinien de 67, hein, sans parler d'avant, mais je veux dire, c'est même pas l'ensemble des territoires occupés en 67. Bon, tout cela ne représenterait en rien une véritable autodétermination du peuple palestinien, et donc ne réglerait rien, hein, sauf donner cette reconnaissance qui est très tardive, parce que c'est en 1988 que l'OLP avait proclamé l'État, et c'était sur fond d'intifada, c'est-à-dire de soulèvement populaire, qui est le moment le plus fort de l'histoire, en tout cas de l'histoire de la lutte palestinienne du temps de l'État d'Israël. Eh bien, quand en 88 cela avait proclamé, cela pouvait avoir un sens, et cela pouvait s'appuyer sur une véritable autodétermination puisqu'on était en plein soulèvement populaire, tandis que, le faire maintenant, le mois dernier, comme l'ont fait la France et d'autres gouvernements occidentaux, ça n'a plus beaucoup de sens, à part le fait de constituer pour ces gouvernements, une sorte d'excuse ou de tentative assez lâche, à mon sens, de compenser le fait qu'ils ont soutenu la guerre génocidaire jusqu'à des dates relativement récentes. Pour le gouvernement britannique, c'est même très récent. Et voilà. Donc, ils se refont, si vous voulez, ils essayent de se refaire
une virginité,
une meilleure image.
Oui.
À bon compte. Enfin, c'est bien facile maintenant aujourd'hui cette reconnaissance. D'autant que maintenant, il lui donne un sens très particulier en soutenant le plan Trump, qui lui-même renvoie, comme je l'ai dit, l'autodétermination et l'idée même d'un État palestinien au calendrier grec ou à une sorte de futur hypothétique qui reste conditionné par beaucoup de choses et qui donc ne verra pas le jour.
Venons-en, si vous le voulez bien, à votre ouvrage « Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale » qui paraît à la dispute. C'est à la fois un ouvrage d'analyse toute récente et puis des rééditions d'articles que vous avez pu publier ces dernières années. Page 8, j'attaque par l'introduction. Vous nous expliquez que ce livre s'assigne trois objectifs. 1. Une analyse sur le long terme de l'histoire tragique qui précède le génocide de Gaza, des origines du sionisme jusqu'à la prise de contrôle de l'enclave par le Hamas et le début des assauts répétés d'Israël contre ce territoire. B. Un examen de près des événements qui ont commencé le 7 octobre 2023 avec un effort constant pour les placer dans un contexte et une perspective historique, on va le voir. Et C. Une réflexion avec plus de recul et d'un point de vue plus global sur divers aspects de la tragédie, y compris une critique du Hamas et des considérations sur la dérive vers l'extrême droite de la société et de la politique israélienne. Donc là, je pense que j'ai bien résumé le bouquin, puisque c'est vous qui le résumez vous-même.
Donc, absolument.
Alors, on va démarrer, si vous voulez bien, par peut-être le point central, le point le plus original, me semble-t-il, de votre ouvrage. C'est ce que vous appelez la faillite du libéralisme atlantiste. Alors, évidemment, on vient d'en parler, on passera notre temps à dire qu'on l'a déjà dit, mais il faut redire les choses. Pour vous, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est en fait la fin d'un monde, la fin d'un cycle qui était né après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, qui était donc l'Amérique et l'Occident tout puissant et tout vertueux. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce qui est en train de se passer ?
Oui, et il faut souligner d'emblée que ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date. Je veux dire que ce n'est pas depuis que Trump est arrivé ou est revenu, plus exactement, aux affaires, enfin à la Maison Blanche, parce que depuis que Trump est revenu, avec toutes les mesures qu'il a prises. Alors, vous avez eu une profusion d'articles sur la fin de l'ordre libéral, sur la fin de en un sens la fin du libéralisme occidental, puisque la puissance qui en était le pays phare vire à l'extrême droite. Et bon, mais donc je voudrais souligner que j'ai utilisé cette formule bien avant, en 2024, bien avant qu'il soit clair que Trump, d'ailleurs il n'a pas été clair jusqu'à la dernière minute que Trump allait l'emporter. Et donc c'est sous Biden et donc sous une administration américaine qui est censé faire partie de ce camp libéral, hein, qui est censé incarner ce libéralisme occidental mis en place par étapes après la Deuxième Guerre mondiale et puis après la fin de la guerre froide. Cet ordre libéral qui a plusieurs fois prétendu s'appuyer sur des règles et viser à organiser les relations internationales sur la base du droit, dans le sens, par exemple, pour prendre une proclamation de ce type à la fin de la guerre froide en 1990, quand George Bush, père, pas le fils, mais le père qui était président à l'époque, proclame un nouvel ordre mondial, au sens d'un renouvellement de la promesse de 1945 avec la création de l'ONU et tout le reste, ça y est, je veux dire, le deux poids deux mesures absolument flagrant manifesté par les gouvernements occidentaux entre ce qui se passait en Ukraine, ce qui se passe toujours en Ukraine, et ce qui se passe à Gaza, avec la simultanéité, si vous voulez, de ces deux guerres, le traitement absolument différent de l'une par rapport à l'autre, la réaction très différente, même vis-à-vis d'instances judiciaires internationales telles que la Cour pénale internationale dans son action contre Vladimir Poutine et son action contre Benjamin Netanyahou, eh bien tout cela montre que a montré au monde entier, pour quiconque pouvait avoir encore la moindre illusion, si vous voulez, que ce libéralisme occidental atlantiste qui prétendait donc s'appuyer sur le droit, sur des règles, eh bien ne suit ce droit et ces règles que quand elles lui conviennent. Hein, c'est de la même façon que si vous voulez, ceux qui soutiennent la démocratie, mais à condition qu'elle donne les résultats qu'ils escomptent. Et quand elle donne des résultats qui ne leur conviennent pas, eh bien, il la nie.
Mais Gilbert, pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, selon vous, cet ordre s'effondre? Pourquoi pas il y a 20 ans? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'accélère?
Non, c'est une bonne question. Il commence à voilà. Si vous voulez, au sortir de la guerre froide, en 90, hein, c'est l'année qu'on considère l'année charnière, mais enfin, l'Union soviétique s'écroule complètement fin 1991, mm-hmm. eh bien, on a cette nouvelle proclamation, telle que je viens de la mentionner, d'un renouvellement de cet ordre mondial promis en 1945 avec la fondation de l'ONU. Bon, et puis vous allez avoir des institutions qui vont s'ajouter, vous allez avoir la Cour pénale internationale qui est créée dans ces années-là, ces années charnières des années 90. Vous avez l'adoption d'une résolution sur la responsabilité de protéger. Donc, il existe une résolution de l'ONU qui s'appelle la responsabilité de protéger et qui donc indique qu'il incombe à la communauté internationale d'empêcher les massacres et d'empêcher les génocides. Alors on a vu ce qu'il en est à Gaza, n'est-ce pas? Bon, vous avez eu tout cela, mais en même temps, on est très vite retombé dans une nouvelle guerre froide. C'est le titre et l'objet de mon précédent ouvrage, hein, qui s'appelle « La nouvelle guerre froide », qui est mm-hmm. en 2023, et dans lequel je décris, si vous voulez, comment on est passé d'une guerre froide à l'autre, et le cheminement qui va du début de cette seconde guerre froide, cette nouvelle guerre froide, jusqu'à l'Ukraine, jusqu'à la guerre d'Ukraine. Bon, le livre a été écrit avant Gaza. Et vous allez assez vite avoir de nouveau des événements qui vont montrer que, eh bien, cet ordre international fondé sur des règles, eh bien, il cède le pas devant la loi du plus fort à chaque fois que les règles ne conviennent pas aux États-Unis, à la plus grande puissance mondiale. Ça commence avec la guerre de l'OTAN au Kosovo en 1999, qui se fait en contournant le Conseil de sécurité de l'ONU et qui donc est une guerre illégale au regard du droit international. Et ça se fait de manière encore plus flagrante et encore plus indiscutable, parce que vous avez eu des tentatives de discussion du bien fondé de la guerre du Kosovo sur le plan légal. Mais alors là, ce qui est absolument indiscutable, c'est l'occupation de l'Irak, l'invasion de l'Irak en 2003. Mmh. Et tout cela, donc, chamboule de nouveau toutes ces relations internationales. C'est ce que Vladimir Poutine va invoquer lorsqu'il va envahir l'Ukraine en 2022. Il va renvoyer à la figure des gouvernements occidentaux et de Washington en particulier le fait que, écoutez, vous avez pas de leçon à me donner, vous qui avez envahi l'Irak. Bon, donc tout ça a été fortement malmené, c'est sûr. Mais je veux dire qu'on a atteint le comble, hein, le summum avec Gaza dans la façon dont les gouvernements occidentaux traitent les institutions qu'ils ont eux-mêmes créées, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, sont fustigés pour avoir osé évoquer le terme de génocide ou condamner le gouvernement israélien. Vous avez ces gouvernements, dont le gouvernement français pendant plusieurs mois au début de la guerre, qui s'opposaient même aux appels au cessez-le-feu. Et, hein, il ne faut pas oublier que la France, il a fallu quelques mois pour que le gouvernement français change de position sur la question et accepte les appels au cessez-le-feu. Mais d'autres ont continué longtemps. Le gouvernement américain, jusqu'à aujourd'hui, n'appelle pas au cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu inconditionnel, si vous voulez. Donc, avec Gaza, hein, je crois que les dernières illusions possibles sur cette ordre libéral soi-disant fondé sur des règles se sont effondrées. Et c'est dans ce contexte d'effondrement de cet ordre libéral qu'arrive que revient Trump à la Maison Blanche. Et ça vous montre le lien qu'il y a d'ailleurs entre cette dégradation progressive des règles et du droit international.
Gilbert,
l'extrême droite à l'échelle mondiale, oui.
Gilbert, justement, tout à l'heure, au tout début d'émission, dans le chat, quelqu'un a posé, non, c'était pas une question, c'est une affirmation, en disant de quel droit les États-Unis se mêlent de l'ordre du monde. C'est une question qui peut sembler naïve, mais là, jusqu'ici, pendant les 30 premières minutes, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, comme c'est la puissance la plus puissante, c'est elle qui s'autorise à faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ?
D'abord, c'est pas elle seule qui s'autorise à faire ça, puisque je viens de dire que la Russie a fait de même, oui, avec l'invasion de l'Ukraine. Et déjà en 2014, en 2008, vous avez eu intervention militaire.
C'était à propos de Gaza. La remarque était à propos de Gaza.
Oui,
de la Palestine.
Non, mais simplement pour affirmer que nous sommes dans un monde qui, quand l'ordre fondé, soi-disant fondé sur des règles, eh bien, s'effrite, ce qui le remplace, c'est ce qui domine, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Mais la loi de la jungle, ça veut dire que c'est la puissance qui parle, c'est la force qui parle, et donc les forts se permettent ce qui convient à leurs intérêts. Et de même que les États-Unis ont fait les interventions dont j'ai parlé, la Russie, bon, s'est vue donc par le fait même autorisée à en faire de même. Et c'est une question de rapport de force. Voilà. Alors, les États-Unis sont la principale puissance mondiale sur le plan militaire et de très loin. Leurs dépenses militaires constituent à elles seules près de 40% des dépenses militaires mondiales. Même si on disait un tiers, ça serait absolument énorme pour un seul pays. Vous vous rendez compte de ce que c'est. Ils ont une puissance militaire qui est inégalée et donc se permettent encore plus que d'autres de faire ce qu'ils veulent. Et quand on vient à l'État d'Israël, puisqu'on parle de Gaza, comme vous l'avez dit, eh bien là, les choses sont encore plus claires, vu la dépendance étroite de l'État d'Israël vis-à-vis des États-Unis. Mm-hmm. La guerre génocidaire qui est en cours, qui a été déclenchée après le 7 octobre 2023, est une guerre conjointe, et même la première guerre conjointe, comme je le signale dans un des textes du livre.
Absolument.
Je l'explique. La première guerre conjointe d'Israël et des États-Unis. Cette guerre, elle n'aurait pas pu être menée, et certainement pas pendant toute cette durée, par Israël sans l'appui constant des États-Unis, sans les livraisons permanentes de moyens de destruction, en particulier ces bombes d'une tonne qui ont fait des ravages dans l'enclave, dans la bande de Gaza, sans le financement également par les États-Unis, sans la couverture politique apportée par les États-Unis, le soutien des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, le soutien politique à cette guerre, il n'y a pas de précédent dans l'histoire des rapports israélo-américains. C'est vraiment la première guerre conjointe des deux pays, même s'il n'y a pas de troupes au sol des États-Unis. C'est le seul élément qui manque au décor, mais Israël n'en a pas besoin, puisque c'est une guerre, je veux dire, c'est pas une guerre de fantassins qui...
Non, bien sûr.
Hein, c'est une guerre de destruction, c'est une guerre où c'est les bombes qui parlent, beaucoup plus que les soldats sur le terrain, et donc les livraisons par milliers et milliers de dizaines de milliers de bombes par les États-Unis à Israël sont un moyen de co-belligérance, si vous voulez, hein, d'intervention militaire conjointe avec Israël.
Alors, page 56 de votre ouvrage, réflexion sur le génocide de Gaza, c'est le chapitre. Vous entrez dans certains détails, on va dire là, une forme de spécificité. L'effet du 7 octobre, écrivez-vous, en attisant la compassion narcissique occidentale envers les Israéliens, ainsi que le complexe de culpabilité des pays d'Europe occidentale qui ont perpétré ou permis le génocide nazi des Juifs. L'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie en particulier a conduit à un degré sans précédent de solidarité inconditionnelle avec l'État sioniste. C'est-à-dire que ça, c'est la, on va dire, la deuxième couche après les États-Unis. Il y a ces pays-là. Je voudrais quand même que vous nous expliquiez ce que vous entendez par compassion narcissique occidentale envers les Israéliens.
Alors, la compassion narcissique, c'est un concept que j'ai utilisé pour la première fois dans un petit ouvrage qui était une réflexion sur le 11 septembre 2001. Et tout ce qui s'en est suivi, et où j'utilisais donc ce concept de compassion narcissique pour décrire la façon dont, dans les pays occidentaux, on s'est tout de suite identifié avec les Américains, d'une façon qui contraste très fortement avec l'indifférence vis-à-vis de massacres bien plus ample que le 11 septembre 2001, en particulier en Afrique subsaharienne. Vous avez eu le 11 septembre 2001, je me rappelle encore, le Monde avait titré en manchette « Nous sommes tous américains ». Bon, alors, j'ai pas vu « Nous sommes tous… » Nous sommes tous biafrais, nous sommes tous rwandais, nous sommes tous... Oui, j'entends.
Non, ne vous inquiétez pas, ça marche, d'accord. Tout marche bien.
C'est pas la guerre qui...
Pas du tout, c'est ma machine à café, normalement vous auriez pas dû l'entendre. C'est parce que ça passe directement, mais non, vous inquiétez pas.
Qu'est-ce qui se passait ? Voilà, donc la compassion narcissique, c'est la compassion avec ce qui nous ressemble, pour ceux qui que ça concerne. C'est la compassion avec les semblables, mais sans compassion avec ceux qui ne sont pas des semblables précisément. Et donc on a vu cette compassion narcissique de la même façon qu'elle a très fortement joué le 11 septembre 2001, on l'a vu très fortement le 7 octobre 2023. En particulier, vous savez, cette rave party et tout cela, qui sont des choses auxquelles on est habitué dans les pays occidentaux, tout cela a renforcé l'identification avec les victimes israéliennes. Ce degré d'identification avec Israël n'a pas joué du tout de la même façon avec Gaza. Bon, il a fallu presque deux ans de massacres absolument atroces. Il a fallu récemment cette famine organisée de manière flagrante. Elle était en cours, l'organisation de la famine depuis le début, mais là, ces derniers mois, elle a été de façon flagrante. Les gens ont pu voir un peu plus d'images absolument abominables, insupportables. Il a fallu tout cela pour que les gens, enfin, une partie des gens, commencent à s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Et vous voyez donc le contraste. Hein, c'est avec Israël comme avec les États-Unis auparavant, c'est la compassion narcissique qui joue dans les pays occidentaux, alors que avec les Gazaouis, et sans parler de celles et ceux qui périssent au quotidien dans les pays d'Afrique subsaharienne, dans les diverses guerres, ou au Soudan, prenez le Soudan par exemple, qui connaît également une guerre atroce, eh bien, il y a beaucoup moins d'intérêt, il y a beaucoup moins d'identification avec une des deux parties aux conflits locaux.
ايوه هيك عم تحكي مع الناس العنف عندهم مقدس وين ما روح بضل محبوس في هذا القفص ولا نفس هي كمان واحد القتل هي كمان واحد الحبس كمان واحد الخلع نفس شو اللي عم بيصير ما في تفسير مش شايف غير مسيل للدموع ممنوع اعمل اللي بدي اياه لازم انسى الحياة بتمنى بس لازم اسبل انت الدنيا كلها صارت عنا ماذا استطيع صعب اكتب بقدر ما في مواضيع عم بضيع فكرته عن السلام بيعمل اللي بده اياه انت ضل كله كل شي تمام عشو عم بشكي جبالي يطلع عمل غير اشي بدل ما طلعت هون حاس حالي ضعيف خليني اطلع بدا اعمل اشي تسجل في التاريخ ما انا هيك يا مقتول يا جريح رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فقدت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي شو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تعيش بدون حواجز مش حتتحقق أمنيتك انسرقنا من أرضنا بلدنا انغلبنا عحالنا انقلبنا اقنعونا وتدربنا نحمي إسرائيل من حالنا صرنا ممسوكين عساكر وين ما كان بسولي كل هاد لمين وين الملايين وين الملايين اللي بدنا تحرر فلسطين قاعدين بشموا كوكايين وبيستغلوا الدين اتفاقيات مع مجرمين الجثث رميين لازم نعمل حركة هلا ما نستنى بدل ما انت قاعد جوا الشاشة عم تتفنى عصيان مدني شرطة صمت مدني جدار ما بكفي حطولي جرثومة في بلدي أول باقي منها وسكروا الهاتمها الحياة احتمها لا تمسك الزهر وفنها أنظمة جننها الانتفاضة مكينها أجراس النضال مرنها رخصة السيارة وهويتك وين رايح من وين جاي وشو قضيتك فكرت حالك خلصت هيني جيتك تجتبوا الحواجز مش حتى ايوه هيك حكام نازلين بيمرجوا لبعض وبنفس الوقت مستوطنات بتكتر تكبر تتوسع بدك يا تنحل خلي حكم انت تنحل يمكن وقتها نتروح محل شغلونا بحالنا بكفي شنك محبوس صفى اللي معك حابسك بتحكي عن تطور اسف بس مش شايف غير مسلحين قدام داري عبابيت جاري كل هالسليك كل هالسرقات بواتف هيك اوقات صرنا زي الحيوانات شد الهمه بدل ما تركز على اشياء مش مهمه شو العمل لما ما يكون في امل شو العمل لما تكون حمايتي من زعران وهمل ضلنا كل الله بعيد طلع علينا مش بس محزومين كمان ما بيعين بقدر استعين تليفون شوي صغيره النجده يمكن ينقذونا فجاه ايوه هيك شوف بنونا سجن وظبطونا اياه اكبر مستهلكين للبضاعه فتركونا الحياه عدوك صار ورا الجدار انساه دوقوا في بعض هلا والمقاوم بلاه 38 حاجز على رام الله لحالها وجوا النقط تفتيش للسلطه وخيالها وسع ممكن بده يروح والشعب يلز على الجدار ويفكر حاله حر فصائل بتضر واسرائيل بتسر سياسيين بتطلع على التلفزيون بتكر والاغلبيه لا معهد ولا هداك واحد بيقتل في شعبه واحد باعها للاعداء بيقول لك وضع استثنائي هو استثناء كبرياء بالطفل الكل فقراء واغنياء اذكياء واغبياء مذنبين وابرياء شهداء وحياء. So
alors, ouais, on était en train de discuter en antenne. Je précise que le groupe qu'on entend est un groupe palestinien qui s'appelle Ramallah Underground, qui malheureusement n'existe plus, puisque comme beaucoup de Palestiniens à l'intérieur et dans la bande de Gaza, eh bien, se sont fait décimer à la fois physiquement et évidemment sur tout ce qu'ils pouvaient avoir comme structure, comme capacité de produire de la musique, puisque on l'oublie souvent parfois, c'est aussi ce qui fait l'identité et l'existence de ce peuple palestinien, c'est qu'il existe une culture, c'est qu'il existe des relations, c'est qu'il existe une histoire, une inscription dans le territoire d'une part et dans le temps, dans la géographie et dans le temps, qui constitue les preuves, si on peut dire, ou en tous les cas les matériaux réels de l'existence d'un peuple en soi, en tous les cas d'un groupe social qui peut se définir tel qu'un peuple qui s'appelle les Palestiniens. Alors, on aura peut-être l'occasion un jour de parler spécifiquement de ce peuple, de son histoire, puisque malheureusement, en tous les cas pour ce qui est des médias occidentaux, on a très souvent l'opportunité de réduire ces Palestiniens soit à leurs dirigeants d'une part, soit à leurs groupes politiques d'autre part, ce qui sont en plus souvent des groupes politiques les plus détestables, puisqu'il existe tout un tas de groupes politiques en Palestine dont certains ont des options extrêmement différentes, puisque faut-il le rappeler, on a des groupes comme le FDLP dont le leader est encore vivant, hein, s'appelle Nadef Awayate, il a 93 ans et ce sont eux principalement des bédouins et qui se revendiquent comme maoïstes, oui d'obédience. C'est vrai qu'ils n'utilisent plus le terme maoïste comme tel, mais ils ont cette filiation là, donc ça vous donne un peu quand même la richesse et la diversité de ce peuple qui peut avoir des représentations comme le Hamas ou le djihad islamique, qui est autre chose, hein, qui eux ne sont pas sont des nationalistes mais religieux musulmans, à la différence du Hamas qui n'est pas forcément nationaliste, n'a pas un projet de révolution nationale, mais d'abord un projet de révolution religieuse, et des groupes comme le FDLP. Mais je m'écarte, c'est pas de cela dont je voulais ajouter
quand même, je t'en prie. Au niveau de la Palestine, pour ceux qui y sont allés, malheureusement je ne suis pas allé, c'est dommage, c'est un truc que je regrette, il y a aussi un tissu associatif incroyable. C'est-à-dire que les Palestiniens, au niveau de ce qu'ils peuvent faire, ça n'existe pas ailleurs, quoi. Il n'y a aucune mesure, aucune comparaison au niveau de toute l'association qui puisse exister. Aussi bien au niveau économique qu'au niveau culturel, qu'au niveau, quelque niveau que ce soit.
Ben, le paradoxe, c'est que, étant donné que c'est un peuple qui n'a ni bénéficié de la construction d'un État, d'une part, et d'une autorité qui était soit faible, soit uniquement incarnée dans ses prérogatives, on pourrait dire régaliennes, à savoir police et éducation, eh ben, il a fallu qu'ils se prennent en charge extrêmement concrètement et à la base. Et c'est ce qui fait que la richesse des relations sociales à l'intérieur des groupes palestiniens, d'autant plus que ces groupes étaient souvent, on va dire, assez restreints au périmètre soit du camp, soit du village, ou soit de la petite ville. Gaza étant évidemment un cas extrêmement à part hein, par rapport à l'ensemble des autres. Il y a eu la nécessité d'une auto-organisation pour pouvoir vivre, survivre dans un point de vue matériel d'une part, et puis évidemment d'autre part pour pouvoir continuer à exister en tant que peuple. C'est ce paradoxe qui fait que la richesse de cette société palestinienne est extrêmement extrêmement présente. Encore plus lors des années 70 où il y a eu des groupes politiques. Alors là, on était vraiment dans l'idéologie classique des luttes de libération nationale où on parlait de front, c'est-à-dire que le groupe politique qui envisageait d'être le moteur de cette lutte de libération nationale. Quand on parle de lutte de libération nationale, c'est-à-dire que on estime qu'on a une nation, un groupe national, souvent dans le cadre du colonialisme, mais pas seulement, qui est opprimé, oppressé par un autre groupe, souvent également un groupe national, un État ou un autre groupe national. Mais c'est pas forcément en termes d'État ce que je veux dire par là. Les Hutus et les Tutsis, par exemple, ce sont deux groupes qui habitaient dans le même pays, mais là on avait clairement un État, l'État israélien, qui oppressait un groupe national, celui des Palestiniens. Et donc la libération nationale se faisait ici par la culture, se faisait ici par l'éducation, elle se faisait aussi par la création de syndicats, etc. etc. C'est toutes ces choses-là qu'on appelait un front, et en l'occurrence le Front Populaire de Libération de la Palestine, pratiquait cette partie, ce qui fait que par exemple on a énormément d'universités, on avait énormément d'étudiants, etc., dans la bande de Gaza, mais aussi dans les enclaves palestiniennes. On avait vraiment une promotion extrêmement forte et la volonté extrêmement forte de s'en sortir. Alors malheureusement, j'aurai pas le temps de vous dire ce que je voulais vous dire, puisque mon objectif c'était puisque, comme le disait Gilbert Achkar, il était pressenti que Tony Blair allait être le directeur, le mandataire, le gouverneur même, on pourrait dire, de cette enclave palestinienne, l'enclave de Gaza. À travers l'outil qu'il a créé après son départ de Downing Street, l'Institut Tony Blair, rien que ça. On avait déjà un exemple de son intervention dans un autre cas au Mali. En l'occurrence, puisque à l'issue du coup d'État de d'août 2020, le Mali, le gouvernement a annoncé un partenariat d'assistance technique avec le machin de Tony Blair, donc le Tony Blair Institute for Global Change, qui le conseillerait dans l'élaboration d'une nouvelle constitution. Évidemment, ça a provoqué des réactions très très fortes, puisque l'ensemble des gens qui avaient pu participer à la destitution du gouvernement antérieur ont vertement réagi. Puisque, comme le disaient ces acteurs, le TBI, donc le Tony Blair Institute, était considéré comme des représentants de commerce qui vendraient du sable à des bédouins, quoi. Donc, c'est là qu'on a découvert donc ce TBI, cet institut, qui en fait est une armée de technocrates et qui repose sur l'agenda. Les carnets d'adresses qu'a pu acquérir Tony Blair au cours de ses fonctions, à la fois en tant que à la direction du Labour, mais aussi en tant que Premier ministre de la Grande-Bretagne. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que donc il y a ce TBI, c'est Tony Blair Institute. Il y a une organisation soi-disant à but non lucratif qui s'appelle l'Africa Governance Initiative, qui propose gracieusement ses services aux États africains. Et ce qu'on sait, quand on regarde, il y a eu des enquêtes, notamment une enquête du journal anglais The Guardian, c'est que depuis que Tony Blair a quitté le 10 Downing Street, donc c'est pas si vieux que ça, hein, ça date de 2007, hein, donc ça fait 15 ans, bah, l'animal a accumulé une fortune d'environ 30 millions d'euros, une trentaine de millions d'euros, a construit un empire immobilier estimé à plusieurs millions d'euros, on parle d'une dizaine de maisons, d'une trentaine d'appartements, etc., etc., et il s'est lié à des acteurs à la fois industriels, technologiques, mais aussi politiques, pour pouvoir intervenir et vendre ces bonnes grâces. Et là donc on a la confusion et quelque part on va dire dans le même cas que Trump et ses affidés et son gendre Kouchner, d'intérêts politiques et d'intérêts économiques, dans le sens où ces gens font d'abord du biz, font d'abord du business et ont un intérêt personnel particulier, mais réellement matériel, à intervenir dans des problématiques qui concernent politiques et qui concernent surtout des dizaines de milliers de personnes, dont la vie, dont la souveraineté, dont le destin et dont la capacité à vivre est confisquée par ces individus qui, au final, quand ils repartent, n'ont résolu aucun problème, mais ont résolu un problème qui est important pour eux, c'est celui de leur portefeuille. Donc, on reviendra certainement là-dessus parce qu'il y a vraiment des choses très très importantes, notamment au niveau des grands industriels et des grands acteurs de la tech aux États-Unis. Mais bon, on se doutait bien que, étant vu la personnalité de cet individu qui a menti sur la guerre en Libye, qui a menti sur la guerre en Irak, qui a menti évidemment tout au long de sa carrière, on n'allait pas attendre qu'il nous prône l'auto-organisation et la vie en harmonie des Israéliens et des Palestiniens, c'était évident quoi. À suivre, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que le projet Trump, est encore plus faible sur ses bases que celui qui avait été élaboré il y a environ lors du précédent mandat, et que il est clair que si le Hamas a accepté le plan Trump, ce plan n'aboutira pas, et s'il aboutira certainement à une impasse.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.